Poursuivre le dialogue et encourager la reconstruction, ce sont là les deux enjeux que François-Noël Buffet donne à sa visite en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer sera sur le territoire la semaine prochaine, du 16 au 18 octobre. Talent calédonien relance son activité. La plateforme réunissait ses membres ce matin pour évoquer la relance économique. On en parle dès le début du journal. Jamais la France ne cessera d'appeler à la libération inconditionnelle des otages. Michel Barnier s'exprimait à la cérémonie du CRIF un an après l'attaque du 7 octobre par le Hamas sur Israël. Le Premier ministre a martelé « il faut que la guerre cesse ». Le sport, les mini-jeux du Pacifique attribués aux îles Cook en 2029, c'est là une satisfaction pour la délégation calédonienne. Vous entendrez le directeur du CTOS, Michel Quintin, dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomac pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, je vous rappelle que dans le magazine Citoyen, à l'issue de ce journal, nous parlerons du salon des collectionneurs qui se tiendra à partir de vendredi à la mairie de Nouméa. Nous serons en compagnie de Daniel Mirou et de Jean-Pierre Bressler, les deux organisateurs, mais aussi de trois collectionneurs, Inès de la Petrona, qui se spécialise dans les cartes Pokémon et les figurines, William Alighieri, qui collectionne les coquillages et les tableaux de la Nouvelle-Calédonie, et Pascal Riggenbach, qui est amateur de modèles réduits. Rendez-vous donc en fin de ce journal pour ce magazine citoyen consacré au Salon des collectionneurs. Le nouveau ministre des Outre-mer sera donc sur le territoire dans quelques jours. François-Noël Buffet consacrera en effet son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie, où il se rendra du 16 au 18 octobre, Elisabeth Noir.
Le nouveau ministre des Outre-mer sera en effet la semaine prochaine sur le territoire, 5 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Dans un communiqué, le ministère des Outre-mer indique que cette visite témoigne, dans le contexte difficile que connaît le territoire, du soutien et de l'engagement total du gouvernement auprès de l'ensemble des Calédoniens. Et selon le ministère, lors de sa visite, François-Noël Buffet viendra expliciter l'annonce du Premier ministre de reporter les élections provinciales à 2025. Il sera notamment appelé à expliciter la nécessité de l'élargissement du corps électoral, même sans convocation du Congrès de Versailles. Je suis heureux de venir à la rencontre de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie et de réaffirmer la volonté du gouvernement d'apporter des réponses rapides et pragmatiques à la crise que connaît ce territoire, déclare le ministre cité dans ce communiqué. Il précise que les enjeux de sa visite sont de poursuivre le dialogue et d'encourager la reconstruction. François-Noël Buffet connaît bien la Calédonie pour y être venu à deux reprises, en 2022 et en 2024, comme membre puis président de la Commission des lois du Sénat, qui a publié un rapport détaillé sur le dossier calédonien. Sa visite n'est que la première de personnalités politiques qui devraient se succéder sur le territoire. Michel Barnier a indiqué ce week-end qu'il se rendrait en Nouvelle-Calédonie le moment venu. Et puis on attend aussi la mission de concertation et de dialogue menée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par le président du Sénat, Gérard Larcher, une mission qui pourrait se dérouler vers la mi-novembre. Et puis dans l'actualité politique également, à noter ce courrier du Premier ministre en réponse au député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Michel Barnier lui écrit qu'il a pleinement conscience de la gravité des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai et de l'ampleur de leurs conséquences pour les habitants comme pour les entreprises et les services publics. « J'ai clairement affirmé dans ma déclaration de politique générale, écrit le Premier ministre, que l'État et mon gouvernement accompagneraient la Nouvelle-Calédonie et ses habitants dans la reconstruction du territoire et de son économie, au-delà donc de l'aide d'urgence apportée depuis 4 mois et demi et que je prévois de prolonger ». Le Premier ministre écrit également que l'ampleur et les modalités de ce soutien seront déterminées dans les prochaines semaines dans le cadre d'un travail à conduire avec les acteurs politiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie. Michel Barnier qui évoque également la question du corps électoral dans ce courrier au député Metzdorf. « J'ai confirmé, écrit-il, en accord avec le président de la République, que le projet de loi constitutionnel adopté en mai dernier par les deux assemblées parlementaires ne serait pas transmis au Congrès. Cela ne saurait être interprété comme un abandon de l'objectif du dégel du corps électoral. Celui-ci demeure en effet un impératif démocratique et constituera à ce titre l'une des questions les plus importantes dans le cadre des discussions des prochains mois sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. » Voilà donc pour cette précision du Premier ministre qui ajoute qu'il souhaite que le report des élections provinciales permettra à ces discussions de s'engager dans la sérénité et qu'il s'y emploiera avec l'appui des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et du ministre chargé des Outre-mer. Et le concours des élus et des forces politiques de Nouvelle-Calédonie. Voilà donc pour ce courrier adressé par le Premier ministre Michel Barnier au député Nicolas Metzdorf.
Alors, on parlait de reconstruction. Eh bien, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, lui, décidé de différer d'une semaine le séminaire dédié au PS2R. Le temps de continuer à consulter autour de son plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Et nous en avons parlé ce matin avec Christopher Gigès, qui était notre invité à 7h30, Elisabeth.
Un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction destiné à définir les financements pour toutes les collectivités. Le gouvernement souhaite une adhésion très large à ce plan. Il se donne donc 8 jours supplémentaires pour finaliser le travail avec le monde économique, la société civile et les institutions. L'objectif, déclare Christopher Gigès, c'est de retrouver une dynamique de croissance et pour cela de tracer une trajectoire pour la Nouvelle-Calédonie de manière à répondre à la crise née des violences insurrectionnelles.
Aujourd'hui, on a des recettes fiscales qui se sont effondrées, on a des entreprises qui ont été brûlées et qui essayent de redémarrer, on a des salariés qui sont au chômage partiel et donc on a besoin de retrouver une trajectoire à la fois pour équilibrer les comptes de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, tous les comptes de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être pas équilibrés sans l'État et pendant plusieurs années. Donc il fallait estimer le besoin de financement sur les comptes sociaux, sur les différentes collectivités, définir quels allaient être les efforts de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on peut pas aller solliciter l'État en disant « faites-nous un chèque en blanc et ça va bien se passer », ça se passe pas comme ça. On est en visio avec l'État tous les soirs maintenant depuis quasiment un mois pour définir tout ça. Et donc les différentes réformes qui seront abordées dans le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction permettra de débloquer une aide de l'État qui viendra en soutien du chômage partiel, de soutien de grands investissements pour la Nouvelle-Calédonie, en soutien des entreprises et en soutien des collectivités pour les prochaines années. Donc c'est véritablement une trajectoire.
L'objectif, c'est de faire des efforts et de proposer des solutions novatrices qui passent notamment par un allègement des dépenses publiques. Le challenge, c'est de se mettre d'accord en partant de positions parfois diamétralement opposées au niveau de la doctrine économique.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le 13 mai sur l'approche des uns et des autres, mais on a essayé avec ce plan de partir d'un objectif commun et de considérer que l'objectif c'était de retrouver une économie qui crée de la richesse, d'avoir des entrepreneurs qui ont envie d'investir, des salariés qui sont bien payés, et donc on a trouvé des réponses qui ne sont pas idéologiques mais qui sont pragmatiques à ça, c'est-à-dire simplification de la fiscalité, augmentation du pouvoir d'achat pour les salariés à travers une baisse du coût du travail, une simplification à la fois du code du travail, du code du commerce pour faciliter la vie des gens, et il y a eu des formules, je dirais pas à la radio, mais d'arrêter d'embêter les gens dans leurs initiatives. Donc vraiment, on est dans cette logique. Ça nécessite énormément d'heures de travail. On a des positions qui ne sont pas forcément convergentes toujours entre Louis Mapou, Gilbert Thuyénon, Isabelle Chamorro, Thierry Santa, moi et d'autres. Mais on n'a pas le choix que de se mettre d'accord parce qu'on a besoin de relever la Nouvelle-Calédonie.
Ce PS2R se décline en 4 modèles, économie, sociale et santé, institutionnelle et sociétale. Et dans le domaine institutionnel, c'est presque un premier round de discussion sur l'avenir.
Ce qu'on propose et ce qu'on proposera aux différents acteurs, c'est des choses qui sont beaucoup remontées de la part de la société civile. C'est d'avoir une compétence par collectivité. Aujourd'hui, le millefeuille administratif calédonien, où on a un peu de compétence sur la Nouvelle-Calédonie, un peu de compétence dans la province, un peu de compétence dans la commune, ça c'est plus possible pour la lisibilité des administrés. Qu'on ait véritablement des compétences normatives et des grandes compétences au niveau du gouvernement et du Congrès sur la santé, sur l'énergie, sur l'éducation, et que les compétences de développement et de gestion soient vraiment au niveau des provinces et des communes, avec la possibilité d'avoir une compétence fiscale pour ces collectivités. Donc, c'est un côté pragmatique et pratique, mais néanmoins, c'est une discussion institutionnelle qui avait déjà eu lieu il y a quelques mois de ça.
Ces différentes réformes permettront de débloquer une aide de l'État qui viendra en soutien à ce plan. Un État très présent depuis le 13 mai, souligne Christopher Gigès.
L'État, depuis 4 mois, c'est 50 milliards pour la Nouvelle-Calédonie. 50 milliards, c'est plus que le rendement de la TGC. Donc, il faut saluer quand même l'investissement de l'État au cours de ces derniers mois qui a permis de donner à la fois un salaire à travers le chômage partiel à de nombreux Calédoniens, à des milliers de Calédoniens, 26 000 en l'occurrence, d'aider sur le fonds de solidarité, de permettre de boucler le budget des collectivités sur ces derniers mois. Ensuite, l'État, il est exigeant, il y a un dialogue qui est exigeant, et l'idée pas d'être soumis à des demandes aussi parfois d'augmentation de la pression fiscale, car je vous le dis, pour ma part, je serais totalement opposé à une augmentation de la pression fiscale sur les Calédoniens, à une baisse des dépenses publiques, oui, parce que là, on a clairement des marges de manœuvre sur notre masse salariale, sur nos dépenses de fonctionnement, sur nos dépenses de santé. Mais on a un État qui est à nos côtés et avec qui on a un dialogue qui est justement exigeant au vu des sommes que la Nouvelle-Calédonie demande.
Ce plan sera donc présenté lors d'un séminaire prévu les 17 et 18 octobre au Centre culturel Tchibaou. D'ici là, le temps sera consacré aux dernières phases de concertation avec les représentants des institutions et la société civile.
Et du côté de la société civile, justement, l'association Talents Calédoniens réunissait aujourd'hui ses membres pour une matinée d'échange sur l'avenir de l'économie en Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Et oui, et l'objectif était de permettre aux membres de se retrouver, tout d'abord après plusieurs mois difficiles sur le territoire. Talents Calédoniens, pour rappel, c'est une plateforme qui vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des talents d'ici, mais aussi d'ailleurs. Et ce matin, une cinquantaine de membres ont répondu présents, dont Amy Piron. Elle est hypnothérapeute et pour elle, c'était important de représenter le milieu de la santé dans les discussions sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie.
C'est important parce que le milieu de la santé a besoin de se faire entendre. Et notamment dans notre milieu un peu spécifique qui est la santé mentale, on voit très bien qu'aujourd'hui, donc, les personnes souffrent. Et donc je me dis qu'en amenant en fait ma petite pierre, mon petit bagage santé à talent calédonien, ça peut aussi encourager des professionnels à venir ou à revenir en Nouvelle-Calédonie, partager les problématiques que nous on peut avoir et sur lesquelles le talent pourrait amener des solutions par exemple.
Christopher Gigès et Michael Forest, membres du gouvernement, étaient également présents. L'occasion pour eux de présenter dans les grandes lignes le PS2R, plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. On écoute Michael Forest.
C'est vrai qu'actuellement, d'une part dans le cadre du plan S2R, mais aussi pour observer plusieurs productions de capsules, de numérique, de nouvelles technologies, de l'innovation, qui quelque part nous rappelle aussi que c'est des secteurs qui sont en pleine effervescence, et regarder quelque part comment on peut transformer ces opportunités mondiales pour participer à la survie et à la sauvegarde de notre modèle qui va être amené à s'inscrire dans une refondation prochainement. Donc voilà, c'est un ensemble d'engagements qu'on a pris au niveau du gouvernement et effectivement on essaye d'être présent dans ce type d'initiative pour encourager et puis accompagner les acteurs.
Ce plan PS2R présenté en quelque sorte aux membres de l'association Talents Calédoniens a permis d'échanger sur les différentes problématiques, les difficultés actuelles et surtout de tracer une ligne directrice pour le futur. On écoute Pierre Kolb, président de l'association.
On sait bien que c'est très facile de détruire et par contre c'est beaucoup plus difficile de construire et ça il faudra du temps, c'est pas en quelques jours que les choses vont se rétablir. Les entreprises souffrent énormément et il y a une forme d'urgence, ça il faut le garder à l'esprit. Les entreprises ne vivent pas comme ça sur un fil, elles vivent parce qu'il y a une activité et aujourd'hui leur activité est évidemment très très affectée. Mais au-delà de ça, je pense que la période actuelle qui est désastreuse est aussi peut-être une opportunité de reconstruire différemment et d'avoir une ambition différente. Si on arrive aujourd'hui à fédérer une vision commune, on peut reconstruire une Calédonie, je dirais, qui serait encore plus belle et encore plus fière que hier.
Talents Calédoniens a réalisé une série de capsules vidéo pour mettre en avant l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Des vidéos à retrouver sur leur page Facebook Talents Calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le gouvernement va-t-il réussir, selon vous, à obtenir un consensus sur son plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne sera pas possible de sécuriser durablement la circulation sur la RP1 à la hauteur de Saint-Louis. Ils sont 14% à penser à l'inverse, que l'on y parviendra. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En attendant, il est 11h passé de 44 minutes. On marque une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité, notamment les hommages un an après l'attaque du 7 octobre.
Toute l'info en trois lettres, RRB. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et retour sur les cérémonies d'hommage un an après l'attaque du 7 octobre. Alors que les combats continuent à Beyrouth et à Gaza et qu'Israël a été visé par des tirs de roquettes aujourd'hui, le pays a commémoré cette attaque d'ampleur. Des milliers de miliciens du Hamas ont semé la mort dans les kibboutz du sud d'Israël et dans un festival de musique il y a un an, jour pour jour. le Hamas, qui a torturé plusieurs victimes et fait aussi de nombreux otages. Alors pour se souvenir de ce 7 octobre, les hommages se sont multipliés toute la journée. Wilfried de Villers est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv.
Oui, une cérémonie organisée par les familles des victimes, que ce soit les familles des otages qui sont toujours à Gaza, mais aussi eh bien, les familles des toutes ces personnes, des 1205 personnes qui ont été tuées. Alors, dans cette cérémonie au parc Ayarkon de Tel Aviv, on sentait forcément énormément d'émotion, de tristesse et le poids du deuil, du traumatisme qui pèse sur la société israélienne tout entière, en particulier, bien sûr, pour les proches des victimes des attaques et les familles des otages toujours retenus à Gaza. Amir Idan tenait à rendre hommage à son cousin Tsahir qui a été kidnappé il y a un an. Depuis, Amir revit au quotidien cette journée noire.
Je ne peux pas expliquer avec des mots à quel point ces derniers jours ont été difficiles pour moi. Mais on doit rester debout parce que l'on n'a pas le privilège d'arrêter notre combat, celui pour le retour des 101 otages qui sont toujours à Gaza.
Noam, elle ne connaît pas de victime des attaques, mais elle est venue se recueillir. Une évidence pour la jeune femme qui a la sensation que l'on oublie un peu les otages.
C'est triste de le dire, mais c'est l'énergie générale autour de moi. Dans mon entourage, ce n'est plus un sujet central et je trouve ça horrible. Qu'est-ce que ça veut dire de nous en tant qu'êtres humains? Et ça risque d'avoir de lourdes conséquences pour les otages parce que c'est eux qui sont vraiment impuissants. Alors c'est à nous d'agir.
Sur la grande scène installée dans le centre du parc Ayarkon, la mère d'un otage lançait tout à l'heure un message à son fils. « Mon fils, sois fort, on t'attend et on ne perd pas espoir », dit-elle.
Et en métropole, un rassemblement s'est tenu ce matin pour nous au Dôme de Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale, à l'appel du CRIF. Il a réuni 4000 personnes, dont le Premier ministre Michel Barnier, qui a pris la parole à la tribune. Écoutez.
Face à l'horreur de cette attaque terroriste, de cette barbarie, face aux attaques récentes du Hezbollah et de l'Iran, je veux dire et redire que la sécurité de l'État d'Israël n'est pas et ne sera jamais négociable. Ce peuple se trouve aujourd'hui, et depuis le 7 octobre en particulier, en situation de légitime défense. Aujourd'hui, la situation des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie heurte aussi notre conscience. Et je sais que beaucoup de Français juifs pensent à ces victimes comme aux victimes civiles des deux côtés de la frontière avec le Liban. Trop d'hommes, de femmes, d'enfants sont morts. Il faut d'abord que tous les otages soient libérés. Que la guerre cesse, que l'aide humanitaire entre à Gaza. Alors la France participera avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays de la région, à toute initiative permettant d'avancer vers une solution à deux États qui est la clé d'une paix durable.
Une prise de parole du Premier ministre Michel Barnier qui était très attendue. En Nouvelle-Calédonie aussi, une cérémonie d'hommage s'est tenue. C'était hier soir à la synagogue de Nouméa. Une cinquantaine de fidèles se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de ces attentats terroristes, mais aussi en soutien à la libération des otages toujours retenus à Gaza. On écoute le président de l'association culturelle israélite de Nouvelle-Calédonie, Philippe Metzman.
Entre les fêtes, on a la chance d'avoir un rabbin qui est présent sur le territoire. L'objet aujourd'hui de cette cérémonie, c'est à la fois prier pour le retour des otages. Il reste encore plus de 63 otages qui sont toujours détenus à Gaza. Et puis pour prier aussi pour l'élévation de tous les disparus. Ça ne s'arrête pas. L'armée israélienne est un peu sur tous les fronts. Elle intervient à Gaza, elle intervient au Liban. La survie de l'État d'Israël se joue aussi en ce moment. Donc c'est aussi pour ça qu'on se réunit aujourd'hui.
Le rabbin Pinhas Kubi, aumônier des armées, a présidé la cérémonie en lisant plusieurs psaumes avant de prier pour la libération des otages et d'allumer des bougies en la synagogue de Nouméa. Le secrétaire général du Haut Commissariat, Stanislas Alfonsi, est venu témoigner de son soutien à la communauté juive.
Oui, effectivement, c'est important pour nous, c'est important pour l'État, c'est important pour la République, pour témoigner notre soutien, une solidarité très particulière vis-à-vis des victimes, des décédés, mais également des otages qui sont encore retenus suite aux actes inqualifiables de barbarie qui ont été perpétrés il y a un an tout juste.
Et ce 7 octobre est aussi l'occasion de mettre en lumière la question de la montée de l'antisémitisme en France. Selon une note de la Direction nationale du renseignement territorial, il fait état d'un triplement des actes antisémites, 1676 en 2023. Les deux tiers sont des atteintes aux personnes. Un antisémitisme attisé, selon certains responsables politiques, par Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France insoumise est accusé d'instrumentaliser la cause palestinienne à des fins électoralistes. Il a d'ailleurs appelé les étudiants à hisser des drapeaux palestiniens dans les universités demain. Une initiative qui divise encore un peu plus la gauche, Arthur Delaborde.
Si les Insoumis expriment une solidarité sans faille à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, ses alliés au sein du nouveau Front populaire sont beaucoup plus divisés. Le sénateur PS Rémi Cardon se désolidarise clairement de l'appel lancé par le chef de file de LFI.
C'est malheureusement leur méthode. Nous, ce n'est pas notre façon de faire. Ce genre d'appel à déployer tel ou tel drapeau, ça vient en tout cas indirectement faire comprendre qu'on oppose les morts entre les deux États. On devrait toutes et tous chercher à cofabriquer de la paix. Là, on a plutôt l'impression que ça alimente aussi le conflit.
Sur la même ligne, le patron du PS, Olivier Faure, voit en l'appel de Jean-Luc Mélenchon une forme d'antagonisation du conflit qui est insupportable et qui ne sert personne. L'eurodéputé socialiste Raphaël Glucksmann fustige quant à lui la quête du buzz permanent de LFI. Les seuls drapeaux qu'on doit porter dans des lieux publics, ce sont les drapeaux français, estime de son côté l'ancien président François Hollande. La députée écologiste Sandrine Rousseau parle, elle, de provocation, jugeant qu'il y a d'autres manières d'alerter sur ce qu'il se passe à Gaza.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un mot encore de politique nationale pour dire que Marion Maréchal a lancé son mouvement politique basé Identité Liberté et elle assure qu'elle soutiendra Marine Le Pen en 2027. Il est 11h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
La suite de l'actualité sur le territoire avec ce jeu de société pour sensibiliser les enfants aux inégalités. Le Centre d'information Droits des femmes et égalité de la province Sud organise pendant les vacances scolaires plusieurs ateliers éducatifs, Charlotte Coulson.
Et notamment ce Monopoly des inégalités, un jeu développé par l'Observatoire des inégalités en métropole et repris par le CIDFE. Une activité pour les petits comme pour les grands, mais qui ce matin était proposée aux jeunes du village de Magenta. Le but est pour Joanne Paidi, responsable du CIDFE à la province Sud, de sensibiliser à toutes les formes d'inégalités et ce, de manière divertissante.
Alors, le Monopoly des inégalités, c'est un atelier ludique qui nous permet de vivre à travers le jeu l'expérience d'une autre identité avec différents profils qui représentent la société et certains profils rencontrent plus d'obstacles dans la vie au regard des stéréotypes et de la discrimination qui conduit aux inégalités. Cette expérience va leur permettre de vivre ces profils qui sont peut-être pas les leurs, mais du coup de prendre de la hauteur et de comprendre les mécanismes qui nourrissent les inégalités dans la société. Donc notamment les inégalités entre les hommes et les femmes, mais pas que. On peut également expérimenter notamment les discriminations au regard du handicap, enfin, des handicaps sociaux on va dire, en fonction de là où on habite, mais également de notre origine sociale ethnique. C'est en faisant bouger les mentalités qu'on peut y arriver.
Et une quinzaine de jeunes étaient investis ce matin dans le jeu. Et pour débuter, ils piochent une carte sur laquelle est détaillé le personnage qu'ils incarneront au cours de la partie. Et puis comme dans un Monopoly classique, le but est d'acquérir des propriétés. Seulement, ils ne disposent pas toutes et tous des mêmes moyens pour le faire.
La case redistribution, en fait, elle permet aux catégories A de redistribuer de l'argent.
Moi, je m'appelle Louis, je suis âgé de 62 ans, je suis en catégorie C. Mon salaire est de 100 euros et mon patrimoine est de 600 euros. J'ai des désavantages. Bah oui, parce que je suis en patrimoine C. Les seuls qui ont le plus d'avantages, c'est la A, la B et bah, les C, ils sont en dernier.
Du coup, Aurélien, lui, en fait, il devra reverser 100 euros à toutes les catégories C qui sont présentes sur, ici.
Je m'appelle Aurel et j'ai 55 ans et ma catégorie c'est A, salaire 300 euros et patrimoine 2000 euros. C'est que les catégories C ils ont un mauvais salaire et les catégories A ils ont beaucoup d'argent.
Le jeu ça fait comme la vie, qu'on a comme des problèmes.
Les A c'est les très aisés et les C c'est les très pauvres. Parfois dans la vie, il y a des moments où les A, ils versent de l'argent pour aider les pauvres.
et une activité qui se déroule au Centre d'information droits des femmes et égalité à la province sud et qui sera reconduite avec les jeunes du village de Magenta pendant toute la durée des vacances scolaires.
Les médiathèques de Nouméa lancent donc un système de click and collect. Après l'incendie presque total des établissements de Caméré et Rivière-Salée, les équipes ont longuement travaillé à récupérer les livres et à les nettoyer un par un. Un travail vraiment important qui leur a permis de récupérer plus de 15 000 ouvrages. Aujourd'hui, la ville de Nouméa propose ses documents à l'emprunt sous un format adapté. Marie Carbou est médiathécaire en charge du fonds pour les adolescents.
Donc en fait, le catalogue de nos documents sur le portail de la médiathèque est disponible en ligne. Et donc nos lecteurs peuvent faire leur choix directement sur le portail, réserver les documents qui les intéressent. Et ensuite, avec un système de rendez-vous, on a mis en place un agenda en ligne où ils peuvent prendre rendez-vous pour venir récupérer les documents. Dès hier, on a eu déjà des demandes. On a les premiers rendez-vous qui sont pris là pour dans les prochains jours. Donc oui, on est très contents et on espère que ça va se développer, qu'on aura plein de demandes. C'est vrai que c'était quelque chose qu'attendaient nos lecteurs, les familles en particulier. Et comme on a sauvegardé beaucoup de documents enfants, c'est bien de pouvoir reprêter tous ces livres et de les faire circuler à nouveau, parce que c'est le sens de notre métier aussi que de transmettre et de rendre accessibles les documents de tout type à nos lecteurs.
Et les réservations sont donc à faire sur le site internet webmediathèque.nouméa.nc, webmediathèque au pluriel .nouméa.nc. Les livres sont à récupérer ensuite à la Maison des Associations 1 bis rue Gustave Flaubert à l'Orphelinat. Il est 11h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou. On parlera notamment des prochains mini-jeux du Pacifique, mais aussi des Jeux du Pacifique, puisqu'il y a eu l'attribution pour les mini-jeux de 2029 et les Jeux du Pacifique 2031.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
À toutes les Calédoniennes, la 19e édition de la Nouméa NOPT pour la lutte contre le cancer du sein est de retour le 24 novembre prochain en baie de Sainte-Marie. Tous les bénéfices générés serviront à soutenir la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Inscrivez-vous sur www.inlife.nc. Plus d'informations sur la page Facebook La Nouméa NOPT.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on vous en parlait dès ce matin, les mini-jeux du Pacifique 2029 auront lieu aux îles Cook et les jeux du Pacifique 2031 se tiendront au Tonga, Léo Fichou.
Oui, des décisions annoncées à la suite du Conseil des Jeux du Pacifique qui s'est tenu ces derniers jours à Palau. Une délégation calédonienne était sur place avec notamment Christophe Dabin, président du Comité territorial olympique et sportif, mais aussi Michel Quintin, directeur du CTOS. Ce dernier s'est dit satisfait que les mini-jeux de 2029 aient été attribués aux îles Cook.
C'est le candidat qu'on a supporté parce que je crois que les derniers mini-jeux qui ont eu lieu là-bas ont été très très réussis. Donc nous on est plutôt satisfaits et voilà, on espère avoir des beaux mini-jeux sur place là-bas.
Et donc ce sont les Tonga qui accueilleront les Jeux du Pacifique en 2031. Michel Quintin et la délégation calédonienne sont moins satisfaits de ce vote, puisqu'on le rappelle, en 2019, les Tonga avaient déjà obtenu l'organisation des Jeux, mais avaient renoncé 2 ans avant l'échéance.
Ce n'est pas le candidat qu'on a supporté. Face au Tonga, il y avait Fidji qui avait plus notre soutien de par la solidité de leur candidature. Maintenant, Tonga a bien joué sur justement l'émotion, demandant surtout pardon à l'ensemble des comités olympiques pour ce qui s'était passé pour 2019 et en demandant justement qu'une deuxième chance leur soit donnée.
On le rappelle, l'an prochain, les mini-jeux du Pacifique auront lieu à Palau.
Et puis toujours le sport dans la région, en football. Eh bien, ce matin, la sélection A de Nouvelle-Calédonie est partie pour les Fidji.
Les joueurs qui évoluent sur le territoire sont partis avec l'ensemble du staff. Ils seront rejoints directement sur place aux Fidji par les joueurs qui évoluent en métropole. Les Kagous seront opposés jeudi à la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. Coup d'envoi de la rencontre à 15h, heure de Nouméa. Le match sera à suivre en direct sur la plateforme internet de la FIFA.